Polysécure, épisode spécial non sec, je suis accompagné de Joey. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour. Mon nom, c'est Joey. Dans le fond, moi, je suis superviseur d'une équipe de détection au Centre canadien de la cybersécurité pour le gouvernement fédéral. Donc, c'est mon premier talk que j'ai fait à NoSec. Je suis très content.
Ah, c'est super chouette. Puis en plus, ton talk aborde un des éléments dans lequel je suis un peu jaloux d'ailleurs. Tu es probablement assis sur un des plus gros SOC au Canada dans lequel tu as accès à une télémétrie de fou. Et tu as accès aussi à un très grand volume de d'indicateurs de compromission de par les abonnements, de par les relations que vous avez avec différentes entités dans lesquelles vous partagez des informations. De là arrive aussi la conséquence de mélanger les deux, un peu comme tu m'expliquais, mais quand on mélange grand volume de télémétrie, grand volume d'éléments de détection, donc grand volume de bruit qui vient, somme toute, être ingérable. Je vais essayer de commencer avec ça.
Oui, justement, le titre de mon talk, c'était par rapport à la pollution que le bruit nous amène. Donc, un des gros problèmes qu'on a quand on a beaucoup d'informations, beaucoup de télémétrie et beaucoup d'indicateurs de compromission, beaucoup de threat intel, beaucoup de serveur MISP, c'est que mettre les deux ensemble, c'est beaucoup de bruit que ça crée, des faux positifs, des mauvaises détections. Puis moi, pendant cette présentation-là, aujourd'hui à NoSec, je m'attaquais à ce problème-là en proposant des solutions, surtout basées sur regarder qu'est-ce qu'on sait qui est non malicieux pour pouvoir créer des filtres automatisés qui informent l'analyste qui va être en charge de faire le triage de ces alertes-là, qui ne perdent pas trop de temps, dans le fond, avec le bruit. Pas se perdre dans le bruit. On veut pas se perdre avec tout ça.
Ben, ça crée beaucoup de bruit. Puis là, le défi que tu m'expliquais en off, justement, pour que j'ai l'air pas trop perdu quand ce genre de choses-là, c'est que le fait de mélanger les deux, parce que tu as un volume très grand de télémétrie que vous pouvez filtrer, pour limiter le bruit, mais en même temps, quand tu corrobores ça avec tes signaux, tes éléments de détection, mais là, si tu arrives avec beaucoup, beaucoup de problèmes de corrélation, plus notamment par la diversité des sources que vous avez, la diversité de ce qui en est, donc c'est quand même complexe. On met des choses, on exclut, mais c'est pas simple d'exclure autant d'éléments de détection finalement donc, qui vont créer ce bruit-là. Là.
Dans le fond, un des plus gros problèmes qu'on voit, en fait, c'est que oui, on aimerait filtrer ce genre de bruit-là, mais créer des systèmes automatisés qui filtrent, à un certain point, on en filtre trop, puis on arrive avec des faux négatifs. Donc, oui, il y avait un compromis qu'on aurait dû pogner, mais les systèmes automatisés auraient dit non, on ne veut pas le voir. À cause de ça, nous, on est très. On n'aime pas prendre ce risque-là de manquer un vrai événement de compromission. C'est pour ça que ces filtres-là sont surtout informatifs, mais certains, si on est très confiant que ça fonctionne, vont causer des actions automatisées à la place. Un des exemples que je donnais, c'est qu'il y a beaucoup d'administrateurs système qu'on peut voir parce qu'on a de la télémétrie provenant de beaucoup de clients. On finit par remarquer des appareils que c'est des administrateurs de système, des gens avec beaucoup de privilèges sur les réseaux, des machines qui ont accès à d'autres systèmes très privilégiés. Mais on voit que ces gens-là, des fois, sont très créatifs et vont poser des actions qui utilisent soit des outils normalement qu'on voit avec des acteurs mal intentionnés ou qui vont même utiliser des techniques que normalement, c'est des acteurs mal intentionnés, mais c'est seulement de la créativité pour arriver à faire leur travail. C'est pas malicieux. Donc, le problème avec les filtres automatisés, c'est que cette chose-là serait détectée comme le feu est pogné à un de nos clients. Donc, on ne veut pas trop automatiser pour se garder un peu de gêne et remarquer qu'il y a ça des fois.
Oui, puis c'est des cas intéressants justement de la créativité des gens en TI en général, les admins dans le cas que tu mentionnes. Comment vous faites pour réussir, à que ça ne vienne pas vous embourber? Parce que j'ai aucun doute sur l'étendue de l'imagination des admins du système, parce que pour l'avoir été puis en avoir vu plusieurs, ça n'a aucune limite, ce genre de choses-là. Vous devez même découvrir des nouvelles techniques d'administration à travers ce genre de choses-là. Comment vous réussissez à pas vous faire noyer par ça, puis être justement mettre le curseur au bon endroit pour que ça devienne utile puis que vous ne perdez pas du temps sur des choses qui sont moins finalement.
Ouais, l'idée, c'est les méthodes pour filtrer le bruit, parce que ça, c'est du bruit. C'est le genre de choses que tu ne veux pas voir en tant qu'analyste de SOC. Plusieurs techniques pour filtrer notre bruit. On a des techniques un peu plus très spécifiques où est-ce que les analystes de SOC ont remarqué que dans cette situation-là, tel script va rouler à telle heure par tel SID, exemple dans le réseau. Donc maintenant, à partir de maintenant, on peut filtrer celui-là spécifiquement. Donc ça, ça réduit énormément le bruit quand on a des administrateurs système créatifs. Mais on a aussi des filtres à bruit plus de façon générique. Donc, qui ne sont pas spécifiques à nos clients, mais plutôt qui sont spécifiques à des technologies. Pendant mon temps au Canard Tech, moi, j'ai exploré le système de partage de fichiers de Microsoft qui s'appelle Delivery Optimization, qui est un système qu'on a sur tous les appareils Windows depuis Windows 10, Windows 11. C'est on par défaut. Ça permet de sauver beaucoup de bandes passantes. Ça permet d'avoir des updates plus rapides. Mais qu'est-ce que ça fait pour vrai, ce système-là? Personne ne s'est vraiment penché là-dessus, étant donné que c'est non malicieux, c'est non utilisé par des acteurs malicieux. Donc, il n'y a pas de chercheur en sécurité informatique qui s'est dit « je veux créer des filtres et détecter cette chose-là ». Parce que c'est non malicieux, pourquoi je perdrais mon temps? Moi, j'ai décidé de vérifier ça, de dire quel genre de comportement pourrait être détecté qui montrait que c'est un abus de ce système à travers le réseau, à travers les indicateurs, si on veut. Donc, pour revenir à la question, les filtres, c'est du cas par cas. Dans certains cas, on est capable d'en faire des génériques pour les clients, par client. Dans certains cas, on est capable de les faire au niveau de toute la flotte en focusant sur les technologies qu'on est habitué de voir.
Est-ce que vous avez des contacts avec vos clients? Je veux dire, vous pouvez, dans certaines occurrences, dire, pouvez-vous arrêter de faire ce genre de choses-là parce que vous levez des alarmes partout ou vous ne faites pas dans ce côté-là, vous êtes vraiment, vous faites juste filtrer puis vous les laissez agir comme ils veulent?
Dans des cas très évidents, on est capable de se rendre compte que non, c'est un script qui part tous les jours à la même heure par les mêmes utilisateurs, etc. Ça, on est capable de voir de façon mathématique que c'est pas malveillant. Mais dans les cas où est-ce qu'on le sait pas, on essaie de trouver comme pourquoi est-ce qu'on voit ça. En cas de doute, on demande aux clients. Pas le choix. C'est eux qui connaissent leur réseau. C'est eux qui connaissent quel est le problème. À la limite, ça peut même être tellement un risque pour eux qu'ils vont demander que cette pratique-là soit changée. Mais ce n'est pas nous, étant donné qu'on n'a pas de marteau, nous, on ne fait que partager l'information, de dire « c'est un peu louche, veuillez s'il vous plaît faire votre propre enquête ».
Ah, c'est intéressant de voir cette façon-là, cette relation-là que vous avez sur ce genre de choses-là. Puis bon, l'humain est créatif, fait que vous devez en trouver toujours de nouvelles stratégies, puis bref, de le retourner. Au niveau des outils plus courants, tu en as un, ça en est un, que ça, c'est un bel exemple. Puis je veux ça qu'on passe à travers cela parce que c'est probablement le plus facile, mais j'en connais aussi d'autres, les spoolers d'imprimantes, partage de fichiers, qui sont des systèmes classiques qui génèrent beaucoup de bruit. Puis qui génère beaucoup de faux positifs pour l'avoir fait aussi, là, peut-être à un volume beaucoup moins grand que le tien, mais on voit beaucoup de simples erreurs de configuration ou d'un usage qui sont pas documentés ou pas suffisamment, puis comme tu le mentionnes très bien, on s'en fout parce qu'on n'a jamais vu d'attaque de ce côté-là. Fait qu'on ignore, puis c'est amusant parce que juste avant toi, je parlais avec une autre personne justement sur le fait qu'on s'intéresse pas à comprendre comment les systèmes fonctionnent. Et dès lors, on s'appauvrit en termes de compréhension. Et justement, tu es allé dans le sens contraire, puis justement, tu es d'enrichir sur le cas d'étude. Puis j'aimerais ça justement que tu en parles davantage.
Oui, en premier, je vais y aller plus générique. Ce genre de recherche-là, c'est pas payant parce qu'on peut pas dire voici comment détecter un acteur qui va essayer d'exploiter ou un groupe de cybercriminalité qui va essayer d'exploiter vos systèmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de recherche qui est faite dans le non-malicieux. Donc, mais ceci dit, il y en a quand même. Pendant la présentation, j'ai cité une belle ressource qui s'appelle Living Off the Living Off the Land. Donc, on parle beaucoup de Living Off the Asterisk, donc n'importe quoi qui est Living Off. Living Off the Living Off the Land donne énormément de ressources vers plein de projets de ce genre-là pour voir autant du bruit que du non-bruit, qui donne des idées de comment détecter ce genre de choses-là, comment caractériser ça. qui règle dans le fond ce problème-là pour les analystes qui doivent répondre aux incidents, détecter les incidents. Une de ces ressources-là que j'aime bien s'appelle Living Off the False Positive. Donc, c'est une ressource qui documente exactement des techniques où est-ce que ces choses-là, c'est toujours des faux positifs. Donc, si vous le faites de cette façon-là, vous allez vous cacher dans le bruit. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire dans ma présentation sur Delivery Optimization, c'est de regarder, OK, prenons une de ces techniques-là, allons-y en profondeur, mais essayez de caractériser qu'est-ce qui serait indicatif d'un abus de cette chose-là. Donc, oui, on vit dans le faux positif, mais malgré ça, il y a quand même des patterns différents qui permettent de voir que oui, c'est le faux positif, mais ça, c'est pas normal. C'est pas une utilisation normale. C'est ça qui va pouvoir devenir une vraie alerte pour l'analyste ou qui, au contraire, ne va pas filtrer une alerte.
Ben c'est intéressant. Puis c'est des très belles ressources que je mettrai dans les show notes. À partir de ça, puis parce que t'as un accès à un énorme volume d'informations, fait que donc t'es parti à partir de ce volume-là, puis t'as commencé à caractériser dans vos environnements comment ce service-là fonctionnait, j'imagine.
Pour Delivery Optimization, dans le fond, ce service-là, c'est un service qui permet à des machines Windows de faire des mises à jour plus rapides. Donc, en réduisant le volume de télémétrie qu'on va chercher directement des serveurs autoritaires de Microsoft. Qu'est-ce qui arrive, qui peut être abusé ici, c'est que Delivery Optimization a plusieurs modes. Un qui est très utile, c'est le peer-to-peer. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça, le peer-to-peer de Delivery Optimization? C'est exactement, je te vois sourire en ce moment, c'est que à l'intérieur de ton propre réseau, tu vas te mettre à échanger des morceaux de fichiers avec n'importe qui. Donc, par défaut, c'est configuré pour échanger seulement dans ton réseau local. Aucun problème avec là. On fait confiance à nos réseaux, à nos ordinateurs de notre réseau local. Mais il y a un beau petit bouton qu'on peut configurer, super subtil, qui permet de partager ces fichiers-là avec n'importe qui sur Internet. Donc, tu me vois venir. Moi, je me mets...
Je vois plus que ça parce que j'ai vu le cas, parce que sur mon réseau à la maison, j'avais un ordinateur d'un client. Et tout à coup, je le voyais communiquer. Puis moi, mon réseau est peut-être hors norme, au sens où j'ai des alertes, des choses comme ça. Puis je voyais cette machine-là connectée avec plein d'autres adresses de chez Vidéotron, chez Bell, chez Cogeco, tout ça. Puis je suis comme, qu'est-ce que ça fait, cette machine-là? Fait que là, j'ai lu ça. J'ai-tu un problème? Puis pour moi, j'ai-tu un problème avec la machine? Est-tu infecté? Faites quelque chose? Mais je vais te laisser continuer parce que j'ai vraiment vu ce cas-là arriver. Puis là, bon, ils ont corrigé la configuration puis ça a arrêté de le faire. Mais ça, je l'ai vu puis ça a commencé à se spreader beaucoup, trop d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que Delivery Optimization, par soi, c'est pas malicieux. Donc, télécharger des mises à jour, c'est pas être malicieux. Partager des mises à jour, aucun problème au niveau d'être malicieux. C'est pas malicieux du tout. Mais quand on regarde à un volume de télémétrie qu'on a, nous, donc on parle de 167 clients et même plus, on parle de 200 000 événements de host par jour, par seconde en fait. Donc, c'est des gros volumes de télémétrie. Ensuite, on se revire de bord, puis on ingère énormément d'indicateurs, des mauvaises IP, des mauvais domaines. Tout le système de CTI, on ingère ça. Donc, quand on met les deux ensemble, on a des matchs partout parce que toutes les machines se mettent à partager des mises à jour avec, dépendant de la configuration, se mettent à partager des mises à jour soit avec le réseau local ou les réseaux dans le monde par peer-to-peer. Donc, pour un analyste de cybersécurité qui regarde ça, c'est mon ordinateur ou l'ordinateur de tel client vient d'uploader 2 gigs de data à cette IP louche-là dans tel pays que j'aime moins. C'est pour un analyste qui ne comprend pas le contexte, c'est une alarme. Là. C'est, on fait de l'overtime ce soir. Là. On veut régler ça. Mais c'est
tout à fait.
Normal.
Puis le télétravail multiplie ce problème-là, au sens, c'est pour ça que moi, je l'ai attrapé sur mon réseau local. J'ai vu ma machine client commencer à se spreader sur, heureusement, pas dans des pays louches, en l'occurrence, mais sur des IP répartis sur le territoire. Puis là, je fais comme, pourquoi il parle à autant de monde que ça? Puis pourquoi cette machine-là? Puis effectivement, là, moi, c'était pas, non, c'est justement, c'est dans un cas non malicieux. Mais dans un cas comme vous autres, vous avez quand même des installations à travers le monde, donc ça doit être encore plus difficile de réussir à cibler. Là.
Mais dans le fond, on est chanceux parce que la télémétrie qu'on a nous donne une idée globale du Canada. Étant donné que c'est le gouvernement canadien, on est à la grandeur du Canada. Donc, ça nous donne quand même une bonne richesse de répartition de la télémétrie. Puis, qu'est-ce que ça a? C'est que chaque client a des spécificités locales. Donc, c'est pas normal des fois qu'ils se connectent à telle adresse IP dans tel pays, mais pour d'autres, c'est normal. Ce qui veut dire que quand on regarde avec Delivery Optimization, qui se met à partager des mises à jour avec des IP dans certains autres pays, ben c'est tout à fait normal parce qu'on aurait peut-être une présence locale dans ce pays-là. On parle peut-être d'un ou une employé qui travaille à distance, à des conférences, à n'importe quel. On a des présences, c'est ça, un peu plus mondiales à ce niveau-là. Fait que, des fois, ça fait peur de voir la télémétrie, mais mon rôle en tant que, justement, detection engineer, c'est ça, c'est de caractériser ce genre de bruit-là et de filtrer les alertes de ce genre-là.
Mais à partir de là, là tu as un fonctionnement normal, donc puis un peu qui peut paraître louche. Puis moi-même, j'ai greffé au plafond quand j'ai vu ça arriver. Et ensuite, comment tu bascules? Tu fais, OK, bon, ça, c'est un comportement normal. Ça n'est pas un comportement où le service a été abusé d'une façon ou d'une autre. Donc, un acteur malicieux aurait utilisé des services, un living of the land, si on veut, pour aller plus loin. Comment tu réussis à faire la part des choses, justement, pour filtrer correctement puis juste garder le signal important?
Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la bonne télémétrie. Donc, je donne un exemple de vérifier est-ce que j'ai transféré des mises à jour avec cette IP douteuse-là ou est-ce qu'un acteur s'insère dans le processus et utilise ça comme un canal caché dans le fond. Avoir du NetFlow ne va pas donner l'information. NetFlow va donner les ports, va donner la quantité de trafic qui est envoyé. Avoir un PCAP, mettons une capture réseau, pourrait peut-être aider. On va voir le contenu de la transaction. On va pouvoir voir, OK, c'est le protocole Swarm de Microsoft qui est le protocole derrière ces transferts-là. Donc, OK, c'est parfait. Je viens de voir que c'est vraiment des mises à jour qui ont été transférées. Donc, je peux filtrer l'alerte. Mais une autre chose qui est très utile, c'est de mettre deux senseurs ensemble. Donc, on a un senseur réseau, les NetFlow ou les PCAP. Et ensuite, on a notre EDR. Donc, l'EDR va nous donner toute la hiérarchie de processus qui ont mené à la communication. Mais en même temps, la partie réseau va nous dire quel était le contenu ou donner plus d'informations à propos du contenu. Donc, nous, c'est comme ça qu'on est capable de voir. Est-ce que sur l'autre, sur l'ordinateur, est-ce qu'on voit le type d'événement qu'on s'attendrait normalement à voir pendant la négociation qui va mener à un partage peer-to-peer de Delivery Optimization dans ce cas-là. Donc, c'est toute une question de contexte. Si on est capable, c'est toujours d'aller voir est-ce que je peux avoir une source de télémétrie qui va me donner plus de contexte. Donc, ça marche avec vraiment tout type d'attaque, si on veut. On peut se mettre exemple à ingérer des indicateurs puis dire ce domaine-là, si vous parlez avec ce domaine-là, vous êtes compromis. Je donne un exemple. Donc, on parle, ce qui est bien populaire ces temps-ci, c'est les fake captcha. Donc, les gens vont sur Internet et la page web dit « Cliquez ici, maintenant faites Windows R, CTRL-V, Enter » pour nous prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc, mais bien sûr, je ne suis pas un robot. Je vais cliquer. Donc, il y a un payload qui s'en va dans le clipboard. Windows R, on a notre fenêtre d'exécution qui est ouvre, CTRL-V, on met le payload, Enter, on exécute le payload. Donc, dans un EDR, on voit ça, on voit cette chaîne-là. Donc, ce qui fait en sorte que quand la machine de l'utilisateur visite le domaine qu'on a ingéré dans le CTI, exemple, si on voit cette chaîne d'événements, on sait que c'est mauvais. Mais d'un autre côté, si on voit que ce domaine-là a été visité par un furteur web, c'est normal. C'est pas malicieux, ça. C'est tout simplement que quelqu'un a été sur ce domaine. On voit pas le problème. Mais si on voit après ça, la chaîne de processus provenant de Explorer qui mène à exécuter ça, là, il y a un problème. Puis là, on veut remédier l'incident.
Effectivement, je trouve ça très intéressant, cette corrélation forte entre les événements réseau et les événements endpoint, justement, de ramener les deux. Ça, Gérard, ça, je le vois moins souvent, cette exécution-là. Donc, vous êtes capable de mixer les deux signaux. Dans le fond, tu vois toute la trace de télémétrie du poste avec les process et les ports sur lesquels il sort, puis les IP qui sortent. Puis tu arrives sur ton contexte réseau et tu vois la suite de l'histoire comme ça, donc vous enrichissez. Comment vous mettez les IOC là-dedans? Parce que là, on est dans un contexte d'un enchaînement de choses qui n'est pas nécessairement simple à automatiser en termes de détection ou en termes de filtration. Comment vous arrivez à justement faire des canevas qui permettent de simplifier votre travail essentiellement?
Oui, on a une grosse plateforme d'analytique qu'on a construite. Par exemple, un de nos systèmes, c'est qu'on a mis en open source récemment. S'appelle Haller. C'est notre système qui permet de justement filtrer les alertes, de montrer les alertes aux analystes, d'enrichir les alertes. C'est un système d'alerte, dans le fond, avec tous les workflows qu'on pourrait amener. Mais derrière ces outils-là, il y en a d'autres aussi. Donc, on a tout un gros pipeline qui prend la télémétrie réseau, qui prend la télémétrie du cloud, qui prend la télémétrie des logs, parce qu'on a aussi certains partenaires, certains clients qui nous donnent leurs logs applicatifs. La télémétrie de endpoint. Puis l'idée, c'est de rien manquer. Ce qui fait mal, c'est manquer quelque chose quand tu sais que c'est malicieux. Donc, ensuite, en s'assurant de faire des requêtes sur tout ça le plus en temps réel possible, on arrive à corréler les résultats dans des alertes qu'on peut ensuite soit filtrer automatiquement ou on peut enrichir pour que les analystes aient la vie moins difficile, parce qu'il y a beaucoup d'alertes, je dirais, que les analystes ont à regarder chaque jour.
Oui, c'est énorme le nombre d'alertes. Donc, vous avez dans une forme de pipeline qui transforme tranquillement les signaux vers quelque chose. Puis vous avez, je comprends bien, vous avez un premier niveau d'alerte, d'où de signaux qui est envoyé. Et celui-ci est ensuite retraité une deuxième fois pour amener un peu plus loin puis rendre la vie des analystes plus facile. Donc, de soit les enrichir pour leur donner le contexte ou littéralement les filtrer parce que c'est plus nécessaire, parce que dans un deuxième temps, vous avez détecté que, bon, c'est un geste. Dans le cas d'exemple, c'est un swarm qui est parti pour du transfert de fichiers d'un update. Donc, vous êtes capable d'arriver à la conclusion puis vous le faites. Ça, c'est bien ça?
Oui, exactement. Fait que nous, on a un système entier avec des tiers. Je donne un exemple. L'exécution de ping. Ping.exe. Tout le monde fait ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'on a une détection qui regarde si ping a exécuté. Ça va créer un hit qu'on appelle. Donc ça va dans notre plateforme d'alerte. Mais un hit ne devrait pas être regardé par un humain. La seule chose qui regarde les hits sont des algorithmes supplémentaires de promotion. Donc ensuite, si on voit, exemple, une stratégie de séquence, on voit ping, ping, ping suivi de who am I? Ça, c'est un peu plus louche. Donc, dans ces situations-là, nos algorithmes de promotion vont prendre les 3-4 événements hit et les promouvoir en alerte. Une fois qu'on est rendu en alerte, maintenant, un analyste doit regarder ça, doit faire son évaluation. Mais on a aussi l'inverse. On a des fois des alertes ou des détections qui mènent directement à une alerte. Donc, PowerShell qui fait des commandes louches sur Internet, on ne devrait pas voir ça normalement. Surtout pas PowerShell qui vient d'un document Word. Putain, on va dire ce workflow-là. Document Word, PowerShell, Internet. On ne veut pas voir ça. Ça ne va pas créer un hit. Ça, c'est une alerte directement. Mais ce qu'on a aussi, c'est des algorithmes de démotion. Donc, on peut regarder des alertes et se rendre compte non, ça, c'est mon sysadmin ou ma sysadmin dans tel client. Retourne ça en hit et laisse les prochains algorithmes s'assurer que c'était véridiquement un bon filtrage. Donc, on a toujours un peu un mouvement de hit à alerte, d'alerte à hit. Puis c'est ce qui nous permet de réussir à fonctionner à travers tout notre volume de données.
Bien, c'est assez impressionnant. Puis là, le point de jonction, puis que que parce que je l'ai jamais, on n'est jamais, j'ai jamais été mis en contact avec un système aussi sophistiqué que ça. Là, vous recevez des IOC, par exemple, à travers les MISP dans lesquels vous êtes abonné, les CTI, tout ça. Comment vous êtes capable de faire ça? Parce que ces indicateurs-là sont quand même assez rudimentaires. Comment vous êtes capable de transformer dans des séquences de choses comme ça? Vous avez vous-même du travail que vous prenez le BAD, que vous le mettez à votre contexte pour qu'être capable que votre plateforme soit capable d'arriver à quelque chose dessus. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est chaque fournisseur de feed MISP demande du gros travail pour contextualiser ça. Le but, juste un indicateur vide, on n'a pas le choix de le détecter, oui, mais c'est très bruyant. On a beaucoup de misère à ce niveau-là. Donc, une des premières étapes quand on fait de l'ingestion de justement de nouveaux feeds de CTI, plein de mots anglophones, c'est de caractériser quel genre d'action qu'on va automatiser à partir de ça. Est-ce que j'ai assez de contexte? Puis est-ce que je devrais manuellement ajouter du contexte ou même automatiquement ajouter du contexte? Donc, on a des fournisseurs des fois que eux, tous les indicateurs qu'ils vont nous fournir, c'est des command and control de botnet. Aucun problème avec ça. Eux ne nous donnent pas de contexte autre que les adresses IP ou les domaines. Mais on sait que ce vendeur-là, c'est toujours des botnets. Donc, dans notre pipeline, on ajoute le contexte, ce qui fait en sorte que nos analystes qui vont faire le triage d'alerte à la fin ont déjà le contexte qui a suivi jusqu'au moment du triage. Donc, c'est comme ça que c'est. Il faut ajouter du contexte à l'ingestion de l'indicateur provenant de notre CTI.
C'est très intéressant parce que je vois peu d'organisations déployer ce genre de choses-là, ce genre d'effort-là supplémentaire qui est fait. Généralement, je vois plus du out of the box. Ils déploient, puis sont contents, puis ils arrêtent essentiellement leur travail-là. Donc, tout le malheur qui s'ensuit naturellement de faire ce genre de choses-là. Est-ce que c'est très énergivore de faire ce genre de travail préalable-là ou vous retombez dans... Parce que tu parlais de coûts associés, de faire des recherches sur ce que tu as fait. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice apparent, mais le temps que vous sauvez, j'imagine qu'il doit avoir un gain énorme. Donc, d'investir dans le nettoyage préalable est quand même payant sur le temps investi par les analystes.
Oui, dans le fond, plus il y a du temps mis à l'ingestion pour créer des données de qualité, moins on a à perdre du temps vers la fin de la machine à saucisses, si on veut. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de justifier de prendre le temps de bien contextualiser, bien ingérer des indicateurs. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que, étant donné qu'on ingère de plusieurs sources, des fois, c'est des concepts qui sont en conflit. Des fois, c'est des indicateurs que c'était vrai v'là deux semaines, mais je viens de l'ingérer, il est trop tard. Donc, le temps joue dans la qualité des indicateurs ici, le contexte joue dans la qualité des indicateurs. Puis en même temps, je donne un exemple d'un des rapports qui a été publié récemment de plein de routeurs à grandeur du monde qui sont compromis. Ce qui veut dire que des acteurs pourraient sauter sur les routeurs pour paraître comme s'ils venaient de ce pays-là. Donc, le geo-filtering ne sert pas tant dans ces situations-là. Mais une communication venant de cette IP-là qui touche nos clients ne veut pas dire nécessairement que c'est malicieux. Peut-être que c'est un ou une citoyenne, exemple du Canada, qui s'est connecté pour faire son rapport d'impôt. On ne va pas bloquer ça. On ne va même pas investiguer ça. Donc, ce qui est important, c'est que quand on a fait l'ingestion de l'indicateur, on n'a pas dit en partant, cette chose-là, cette IP-là, c'est malicieux. C'est le contexte derrière ça qui permet de dire, OK, on n'a même pas besoin d'alerter là-dessus parce que c'est pas assez. Notre appétit du risque fait en sorte que non, on ne veut même pas regarder ce genre de choses-là.
C'est super intéressant. Je pense qu'il y a... J'espère que beaucoup de gens vont s'inspirer de ce que tu mentionnes parce que je pense qu'ils vont avoir un gain massif pour tout le monde. On a couvert un peu l'état de ta présentation. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts que t'aimerais parler?
Bah, pourquoi pas? Je vais plugger certains services. Donc, si un ou une citoyenne du Canada aimerait profiter des indicateurs qu'on trouve, nous, au Centre canadien de la cybersécurité. On partage ces indicateurs-là avec l'organisme CIRA, donc qui est responsable du domaine .ca. Eux, CIRA, ont un service qui s'appelle Canadian Shield. En s'abonnant à Canadian Shield, si on choisit le serveur DNS qui protège les cybermenaces, ben, nos indicateurs sont là-dedans. Donc, ça vous permet, les citoyens, d'être protégés des cybermenaces grâce à ce partenariat-là. Donc, ça ne coûte rien de configurer le routeur de la maison pour pointer vers Canadian Shield. Puis moi, je recommande ça parce que c'est un autre filtre de protection que n'importe quel citoyen pourrait utiliser. Puis on fait le travail. Pourquoi pas l'utiliser?
Oui, c'est super intéressant. Puis je l'utilise déjà depuis quelques années, je crois, ce scénario-là. C'est vraiment très, très, très bien d'avoir de ce retour-là à la communauté. Puis ça, j'aime beaucoup ça, l'effort du gouvernement fédéral d'être capable de retourner aux citoyens un peu toute, toute l'énergie que tu as investie à protéger ces infrastructures, mais aussi qu'on protège la communauté. Merci énormément, c'est super intéressant. Je le répète, j'espère que les gens vont s'inspirer de votre façon de faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer puis beaucoup d'améliorations, je pense que dans les socs qu'on a à travers le pays, donc elles pourraient bénéficier de justement toute cette connaissance-là.
Merci. Un gros merci.